des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour.
Vous revenez nous voir pour votre chronique sur les femmes écrivains.
Oui.
Quel est votre choix d'aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai choisi de vous proposer un ouvrage de Laurence Cossé qui s'intitule « Au bon roman » et qui a paru aux éditions Gallimard. Vous le trouverez pour le prix de 22 euros en librairie.
Ah, pourquoi ce choix, Jean Mauduit ? Est-ce le titre qui vous a intrigué ?
Il est vrai que là, ça donne l'impression d'une peinture en perspective où l'auteur se met lui-même dans l'action. Au bon roman, roman, c'est intitulé. Et c'est vrai que ça m'a intrigué. Et naturellement, je me suis demandé si c'était un bon roman ou pas. C'est pour ça.
Alors
bon, la réponse est que c'est un très bon roman qui se laisse lire jusqu'à la dernière de ses 497 pages. Et que ce titre est en fait, oui, une malice de l'auteur à laquelle on succombe facilement, j'en suis la preuve à l'instant. En fait, Au bon roman est une enseigne commerciale, celle d'une librairie, pas tout à fait comme les autres, puisqu'on n'y trouve que des œuvres de grande qualité et même des chefs-d'œuvre, la librairie des chefs-d'œuvre. Mmh. Ça pourrait s'appeler Au chef-d'œuvre.
C'est la base de l'intrigue ?
C'est la base de l'intrigue. Ça commence d'ailleurs comme un roman... Vous avez raison de parler d'intrigue, parce que ça commence comme un roman policier. Trois personnages qui n'ont entre eux aucun lien apparent, ni de famille, ni d'amitié, sont victimes, en quelques jours, d'attentats graves qui menacent leur vie. Le premier, un certain qui s'appelle dans le roman Paul Néon, un écrivain que l'auteur présente comme le plus grand styliste de sa génération, mais qui connaît de longues périodes de stérilité littéraire durant lesquelles il se remonte le moral à coups d'alcool et dont le foie a un petit peu pâti, se voit, pour ainsi dire, puni par où il a péché, parce qu'au détour d'une forêt savoyarde, deux individus l'obligent à ingurgiter une quantité d'alcool qui va mettre sa vie en grand danger. Et puis, juste avant ou juste après, en Bretagne, c'est-à-dire à l'autre bout de la France, un certain Le Gall, c'est pas très original en Bretagne, qui lui est non pas un styliste, mais un romancier à succès, qui vend par millions d'exemplaires ses ouvrages. Lui est littéralement terrorisé, harcelé par deux individus d'aspect menaçant qui se mettent sur son chemin chaque matin lorsqu'il va faire sa petite promenade d'éveil. Et la dernière fois, il le force à passer près de l'abîme sur le sentier qui tournicote pour aller jusqu'en haut de la falaise. Nous sommes en Bretagne, nous sommes à la mer. Alors il a très peur. Il a très peur. Et puis, quelque part, aux environs de Nantes, je crois bien, une certaine Anne-Marie Montbrun, qui est une romancière encore, mais qui publie son œuvre clandestinement, parce que c'est une œuvre assez violente, on interprétera le mot comme on veut, et personne n'est censé connaître son identité. Eh bien, elle est en voiture, sur une route qu'elle connaît par cœur, et elle est victime d'un accident d'automobile qui la laisse entre la vie et la mort. Le roman commence ainsi, c'est monté comme un film, par des séquences très, très, très courtes, très flash. Voilà.
Donc l'intérêt du roman, c'est une réflexion littéraire sur ces deux personnages que sont l'auteur à succès et cette femme qui écrit clandestinement,
c'est ça ? Là, c'est froid, hein, c'est, ne brûlez pas, là, non ?
Non.
Non, il ne faut pas chercher, d'ailleurs... pour l'instant, à découvrir le lien. Sinon, si on le révèle, on va ôter le plaisir de la lecture à nos auditeurs. À chacun de découvrir la vérité, hein, comme dans tout bon roman policier. Parce que c'est aussi à la fois la force et la faiblesse du livre. On le dévore comme un roman policier qu'il n'est pas. C'est un non-roman policier qui se lit comme un roman policier.
Et pourquoi n'est-il pas un roman policier ?
Ben parce que c'est en fait une espèce de conte voltairien. C'est-à-dire qu'il y a un thème de société traité avec beaucoup d'humour, avec en filigrane une morale un peu pessimiste. La qualité existe. Il faut la trouver, mais elle ne paie pas forcément. La qualité littéraire s'entend. Et même quand on parvient, comme c'est le cas du héros central de Au Bon Roman, qui est un libraire, à ouvrir une librairie dont le fond est uniquement composé de chefs-d'œuvre, eh bien, il s'ensuit beaucoup de désagréments. Le succès met la rivalité, la jalousie, une concurrence malhonnête, jusqu'au crime, on l'a vu. Donc, au passage, il y a tous les ingrédients du romanesque, comme d'ailleurs aussi dans le roman policier, c'est-à-dire y compris une histoire d'amour, qui finit mal naturellement, et l'intervention d'un policier, pas comme les autres, qui va permettre de découvrir la clé du mystère, parce qu'il y a une clé, bien entendu.
Donc, ce qui vous a attiré, c'est plutôt l'aspect roman policier ou cette réflexion en filigrane sur...
Oui, je répondrai volontiers les deux. Oui, il est vrai que j'aime beaucoup lire les bons policiers, et celui-ci n'est pas mauvais du tout. Et ce qui fait la qualité du livre de Laurence Cossé, c'est qu'il est transcendé en quelque sorte par un vrai amour de la littérature qui se manifeste à travers une érudition étonnante, une connaissance très pointue des milieux littéraires d'aujourd'hui.
Des clins d'œil évidents.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les connaisseurs y retrouveront quelques figures du roman contemporain. Et puis, c'est une satire réussie des milieux d'édition. Donc, c'est un conte voltairien avec une morale en forme de roman policier. Non pas la morale, mais le conte. Voilà.
Alors, que connaissez-vous de Laurence Cossé?
J'avoue pas grand-chose. Comme on a dit, la quatrième de couverture, je suis toujours honnête. D'ailleurs, elle m'a pas dit grand-chose. La quatrième de couverture, bon, elle a publié « Les chambres du Sud », « Le premier pas d'Amante », »,« Le coin du voile ». Déjà, « Le coin du voile hein, », on aperçoit l'oreille. « La femme du Premier ministre », »,« Le mobilier national », »,« Le 31 du mois d'août », »,« Vous n'écrivez plus », et puis « Grand bonheur », et puis « Un frère », et puis « Monseigneur de Très-Haut », et puis « La révolution du temps choisi », très joli titre, en collaboration avec Jean-Baptiste de Foucault et le club Échange et Projet. Son œuvre s'étend de 1980 à aujourd'hui. Je ne sais pas grand-chose d'elle. C'est une femme, à l'évidence, pleine de culture, pleine de talent, qui a de la malice, qui manie très bien la langue française. C'est un auteur intéressant. Alors, peut-être peut-on revenir d'ailleurs à ce qui fait tout de même le fond du bouquin. Le grand problème du livre, c'est le problème de la qualité. Il y a une espèce de critique, d'ailleurs récurrente, on l'entend depuis, moi, depuis que je suis dans l'édition, que je suis en relation avec l'émission de l'édition, je l'entends proférer. Les milieux éditoriaux ont laissé le livre se transformer en produit de consommation. Et d'ailleurs, quand je dis « ont laissé le livre », ont transformé le livre en produit de consommation. Leur choix, c'est ce qu'on entend dire, hein, c'est pas forcément mon avis, leurs choix sont dictés par un souci de rentabilité immédiate, qui plus est. Ils inondent le marché d'œuvres aussi périssables que la salade et qui peuvent rester en vitrine, quoi, 15 jours, après quoi on les envoie à la casse. Des œuvres formatées comme des paquets de céréales pour le petit déjeuner. Bon, et par ailleurs, il y a, et Laurence Cossé l'évoque avec beaucoup de bonheur, une grande foire aux vanités littéraires où chacun est convaincu d'avoir du talent et où le vrai talent est balayé par les effets de mode, par la facilité, par la recherche du best-seller. C'est une satire aiguë, bien troussée. Derrière ça, un vrai débat qui est aussi une vieille querelle. Faut-il écrire pour le grand nombre ou bien rechercher la perfection au risque de passer à côté du succès?
C'est une vieille querelle, comme vous dites.
Oui, c'est une fausse querelle, d'ailleurs. Ouais. Parce que on sait bien depuis Molière que l'ouverture au plus grand nombre n'empêche pas la qualité. Il faut dire aussi que tous les génies ne sont pas méconnus.
Hein,
le poète qui meurt de faim solitaire dans sa mansarde du temps de l'époque romantique, bon, passons. Et à l'inverse, tous les flops littéraires ne sont pas des chefs-d'œuvre. Hein, il ne suffit pas d'être mauvais pour avoir du talent. Et en fait, c'est une querelle qui dure depuis l'invention de l'imprimerie. Quand je dis que c'est une fausse querelle, au surplus, il faut ajouter que tout le monde, quiconque tient une plume ou un écran, a l'ambition d'écrire pour le plus grand nombre possible de lecteurs. Vous connaissez un auteur qui dit « j'écris pour deux personnes ». Oui, il y a eu Paul Valéry qui écrivait pour une seule personne, nous en avons parlé ensemble. Mm-hmm. Mais à cette exception majestueuse près, un auteur très légitimement, je dirais que c'est sain, il a envie que son livre soit lu par le plus de monde possible. Bon, et il n'est pas vrai du tout que le succès soit incompatible avec le talent, ni qu'il soit nécessaire de faire compliqué pour faire bien. Mmh. Bon.
Voilà. Quelles sont les qualités littéraires de ce roman ?
Eh bien, un style, d'abord une action très bien construite, un art du suspense évident, cette succession de flashs ou de séquences courtes qui pimente l'attention, et puis un style très agréable, jalonné de bonheur d'écriture. En fait, nous sommes ici dans le domaine du plaisir. Et mon Dieu, c'est pas négligeable, par les temps qui courent.
Est-ce que vous pourriez nous faire le plaisir de nous lire un petit extrait de ce roman ?
Le plaisir est pour moi, je vais vous en lire même trois pour vous donner une idée. D'abord, une partie du suspense. À 8h30, le mardi 22 novembre, Maïté eut un choc. En gros pull et pantoufles, Armel alla chercher le courrier dans sa boîte au portail, rentra dans la maison, sortit Ouest France de son film d'emballage et l'ouvrit cependant qu'il s'asseyait dans le canapé au coin de la cheminée. Maïté n'en revenait pas. Depuis 17 ans qu'ils vivaient ensemble, tous les jours, à 8h30, qu'il pleuve un peu, beaucoup ou énormément, Armel avait enfilé son ciré, ouvert la porte et lui avait dit du seuil en se retournant « À tout à l'heure, Maï ». Ce 22 novembre, Armel replia le journal à 9h et alors seulement passa son ciré, mit ses bottes, il pleuvait pas mal ce mardi, ouvrit la porte et dit « À tout à l'heure, chérie ». Maïté se demanda pourquoi ce changement d'horaire et pourquoi ce chéri terriblement conventionnel, mais sans s'inquiéter. C'est ainsi du moins qu'elle le raconta. Quand un maniaque apporte un bémol à l'une de ses manies, il a une raison de le faire. Voilà ce qu'elle avait appris en 17 ans de compagnonnage. Elle fut confirmée dans cette hypothèse le lendemain 23 et le surlendemain 24. Si Armel ne mettait plus son ciré à 8h30 précise, mais à 9h, si au lieu de lire Ouest France entre 9h30 et 10h au retour de sa promenade, il s'était mis à le lire avant, entre 8h30 et 9h, il savait ce qu'il faisait, se disait Maïté. Mais quand le 25, à 9h15, en réponse au « tu es encore là », qu'elle n'avait pu retenir comme elle traversait le salon s'apprêtant elle-même à aller faire des courses, il lui dit sur un ton dégagé qui sonnait extrêmement faux, qu'il ne sortait pas ce jour-là, alors qu'il faisait un temps presque sec et que depuis qu'elle connaissait Armel, elle l'avait toujours entendu soutenir qu'il ne pouvait pas se mettre au travail le matin avant d'avoir pris l'air. Elle lui demanda ce qui pouvait bien l'amener à abandonner une conviction aussi sûre et une pratique aussi constante. Et il se troubla, devait-elle raconter. Il répondit à côté. « Fatigué, » dit-il d'une voix cassante. Elle le regarda, il la regarda. « Il est furibond, » pensa Maïté. Elle se trompait complètement. Elle le sut assez vite. En fait, il avait peur, expliqua-t-elle. Pour la première fois de sa vie, il connaissait la peur. Ça, c'est un des ressorts du suspense. Il y en a d'autres. Deuxième passage, sur la librairie parfaite, c'est la naissance du projet, en quelque sorte. Dire que tant de gens autour de moi se plaignent de ne rien trouver de bon à lire, quelle aberration, quel dommage. Alors que vous et moi découvrons chaque mois un chef-d'œuvre, c'est que 90% des romans qui se publient sont des livres que c'est pas la peine, comme les appelait Paulhan. La critique ne devrait parler que des autres, mais elle est paresseuse et frivole. Elle se fiche pas mal de la vérité. Elle ne connaît que deux lois, le clanisme et le copinage. En un mot, elle est corrompue, la critique. J'osais pas le dire. On encense des bouquins navrants. Et dans ce magma, les perles passent inaperçues. Par définition, la confusion profite aux médiocres. Et les libraires, qui n'ont plus le temps de lire et qui vendent des navets. Une merveille, il faut les entendre. Je rajoute en rafale sur un ton monocorde un diamant noir. À lire de toute urgence, attention, génie. Ils me regardent, se demandant si je me moque d'eux. Ils voient que oui. elle se fit plus sérieuse. « Vous savez, j'ai suivi ce qui s'est passé ici, votre tentative de résister et la façon dont on a mis fin. J'ai questionné votre patron. Oui, car le libraire s'est vertement fait rabrouer par son patron qui s'est aperçu qu'au lieu de vendre le courant de la production, il ne vendait que ce qu'il considérait comme chef-d'œuvre. Ce qui lui a attiré beaucoup de clients fidèles, mais en même temps qui a fait sérieusement baisser le chiffre d'affaires de la librairie. Il m'a répondu ce que j'aurais parié qu'il allait dire, que vous alliez couler son commerce. Comme on lui donnait tort, tout cela m'a fait réfléchir. Je crois que votre intuition était juste et votre erreur d'avoir pensé que la librairie idéale pouvait être rentable dans une agglomération de la taille de Méribel. La librairie parfaite, celle où ne se vendraient que de bons romans, ne peut être viable que dans une grande ville à forte tradition culturelle comme Londres ou Paris. Dans une ville de cette taille, je suis prêt à parier qu'il se trouve 5 ou 10 000 personnes dans notre genre, passionnées de romans, et lasses de devoir commander dans des librairies encombrées des chefs-d'œuvre qui ne sont jamais en rayon. Je le parierai aussi, dit Van, ému. J'ai le nom de cette librairie, dit la dame. Elle s'appellera Au Bon Roman. J'ai ce qu'il faut pour la lancer. Il ne me manque plus que le libraire. Van s'était levé lentement. Là, vous voyez naître le projet. Et puis voilà que la librairie est lancée. Ça fait évidemment beaucoup de bruit dans le milieu de l'édition. Et nous assistons à une conversation entre les mêmes que précédemment, c'est-à-dire la femme qui a, en la finançant, aidé le libraire Van à monter la librairie. Mais nous sommes quelques mois plus tard, et entre-temps, cette librairie a donc vu le jour. Au courrier rue du Puitrin, il arriva une lettre adressée à M. Georg. Elle était signée B. d'Alsace. « Ces attaques contre une librairie exemplaire qui ne fait de mal à personne me font penser, toute proportion gardée, à ce que j'ai vécu quand est paru mon premier livre. J'avais travaillé des années, ne cherchant qu'à écrire un roman aussi bon que possible. Le succès a été rapide, et à ma stupéfaction, les attaques, non moins. Populisme, conservatisme, j'en passe. » Moi qui étais tout à la joie de l'accueil des lecteurs, qui pensais ne rien enlever à qui que ce fût, mais venir en sus, je me suis trouvé avoir des ennemis pour la première fois de ma vie, être dénigré par la presse et regardé de haut par des gens que je ne connaissais pas. Laissez dire, concluait Ballon, car son baie d'Alsace, c'est Ballon d'Alsace. Et la semaine suivante, c'était dans la Turbine que paraissait un article ni pour ni contre, titré « Qui est derrière ?» signé par un journaliste maison. Le journal s'était procuré fort légalement l'extrait cabis de l'immatriculation du bon roman au registre du commerce et des sociétés, et il le publiait in extenso. On y apprenait que le bon roman était une société par action simplifiée, avec un président directeur général nommé Ivan Georg, né à Asnières le 5 septembre 1959, domicilié 6 rue de la Jean-Bailly à Paris 9e, un commissaire aux comptes Jean-Marc Aubert, et que le capital en était détenu à 99% par la société civile Epicéa et à 1% par M. Georg. Alors, la conversation, cette fois, reprend. On évoque l'espèce de sauce journalistique, médiatique, comme on voudra. Cette sauce d'Ivan, ça me rappelle un mot qu'on prêtait à Pierre Lazareff. Quand il était le patron de François, soucieux que les pages économiques fussent lues, il aurait dit au journaliste « Faites-moi de la fesse économique ». Francesca regarda Hefner. « À partir de là, vous voyez, dit-elle, j'ai cessé de croire en ce que continuait à soutenir Van, que les gens vexés par le bon roman y allaient chacun de son coup de dent, indépendamment les uns des autres. Le fait que ces articles malveillants paraissaient dans des journaux différents parmi les plus connus devait donner au tout venant l'impression d'un désaveu général, et je continue à penser que leur succession avait été orchestrée pour cela. Mais à moi, il faisait l'effet d'un encerclement. Je ne pouvais pas y voir autre chose qu'une campagne. Je constatais surtout que ceux qui nous prenaient pour cible avaient des moyens et de l'entre-gens.
Je comprends pourquoi ce roman vous amuse, Jean Audu.
Il est effectivement amusant. Et pour finir, Laurence Cossé est une femme avec qui j'aimerais bavarder, effectivement.
Oui, peut-être des souvenirs communs.
Oui, sûrement.
Merci Jean Audu, à bientôt.
Merci à vous et au plus vite possible, oui.